Et à la une de la science aujourd'hui, Axel, une épidémie mondiale, je vais y arriver, de césarienne.
Oui Mathieu, cette épidémie mondiale ne date pas d'aujourd'hui. Voici ce que disait le professeur Yves Molinas déjà en 1985.
Le danger de l'excès est dans le fait que la césarienne est une intervention chirurgicale, qui a des suites d'interventions chirurgicales, qui compromet la relation mère-enfant et qui hypothèque l'avenir d'une femme, et d'autant plus qu'elle est plus jeune, puisqu'elle a une cicatrice définitive sur l'utérus.
Alors, retour en 2018, l'OMS juge qu'entre 10 et 15% seulement des naissances nécessitent une césarienne, mais une étude publiée dans le Lancet montre que le taux mondial de cette pratique a encore grimpé de 10% en 15 ans. 15 pays dépassent même les 40% de naissances par césarienne. C'est un problème et une inquiétude pour les gynécologues. Et nous en discutons avec vous, Philippe Deruel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, professeur aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Alors désolé de vous poser la question comme ça, mais quels sont les problèmes qui se posent avec le fait de pratiquer trop de césariennes ?
Alors, pratiquer trop de césariennes, ça pose des problèmes de coût d'abord, parce que c'est une intervention, forcément ça coûte plus cher que de ne pas faire de césarienne et d'accoucher par voie basse. Ça pose des problèmes à court terme, parce que ça augmente les risques d'avoir des complications pour la maman, ça augmente les hémorragies, les infections. Comme le disait M. Molinas, il y a très longtemps déjà, ça fait une cicatrice sur l'utérus et cette cicatrice va diminuer la fertilité. Elle va aussi poser des problèmes lors de la grossesse future. Et puis enfin, ça va donner aussi des conséquences à long terme chez le bébé, puisqu'on sait qu'il y a une augmentation du taux d'obésité, de diabète, d'allergie chez les enfants qui sont nés par césarienne à côté de ceux qui sont nés par voie basse.
Alors comment expliquer cette épidémie ? Comment expliquer que des pays comme les États-Unis ou le Brésil en sont arrivés à 40% de césariennes, la moitié des naissances presque ?
Ah, l'explication, elle est forcément autour des pratiques. On ne peut pas penser que ce ne sont que les femmes aux États-Unis ou au Brésil qui sont demandeuses d'une césarienne. En fait, il y a une attitude globale du milieu médical et des obstétriciens, en particulier dans ces pays, pour des raisons qui sont différentes mais qui sont multifactorielles. On y associe le risque médico-légal. On pense que la césarienne, ça va protéger de façon un peu simpliste l'arrivée du bébé. C'est surtout le cas aux États-Unis. Au Brésil, c'est un peu plus compliqué. C'est à la fois le rapport au corps qui est très particulier chez les Brésiliens. Ouais. Ils pensent que ça va les protéger au niveau périnéal. Et puis, c'est aussi une manière d'accéder à un niveau social supérieur. J'ai eu une césarienne au Brésil. Ça veut dire que je fais partie du quota des femmes brésiliennes qui, elles, dans les niveaux élevés, accouchent plutôt par césarienne. Et puis, ça fait un effet tache d'huile. Et tout le monde finit par avoir une césarienne pour faire partie de l'élite.
Donc Philippe Deruel, ça veut dire qu'on montre dans ces pays-là le bon côté des choses, parce que quand on vous entend faire la liste des effets délétères de la césarienne, on se dit qu'il vaut mieux quand même essayer de s'en passer dans la mesure du possible, non ?
Alors l'idéal, c'est de trouver la bonne césarienne. C'est-à-dire qu'on peut pas complètement s'en passer. Il faut rester axé sur les recommandations de l'OMS. C'est entre 10 et 15%. Quand on est au-delà de ce chiffre, alors en France, on est autour de 20%. Donc on va le fixer peut-être un petit peu plus haut, 25-30%. On est probablement dans l'excès. À l'inverse, quand on est en dessous de 5%, là aussi, on est plutôt dans le défaut. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès aux soins. Et c'est ce qu'on voit dans cette étude. C'est ce qui se passe en Afrique. En Afrique, ils sont sur des taux qui sont très bas, qui sont trop bas et qui montrent l'absence d'accès à une intervention qui, dans certains cas, est nécessaire. L'avantage, l'intérêt, c'est de dire à qui on fait une césarienne et on ne la fait que pour les femmes, les couples, pour qui c'est vraiment obligatoire et qu'on ne peut pas faire autrement.
Alors justement, Philippe Deruel, quelles sont les actions que vous menez vous-même ou avec le collège pour faire baisser ce nombre de césariennes inutiles en France ?
Alors, ces actions, en fait, elles sont connues, elles sont publiées. On sait aujourd'hui qu'il faut... D'abord, c'est l'action des sociétés savantes, c'est l'action des pairs, c'est l'action des leaders qui vont, à ce moment-là, pousser pour réduire le taux de césarienne. Et d'ailleurs, on le voit dans les courbes. Aux États-Unis, ils ont mené ces actions il y a 5-10 ans et on commence à voir baisser le taux de césarienne. Et puis ensuite, il y a les actions du quotidien. Dans chaque maternité, on doit faire des staffs, on doit faire des rencontres, on doit évaluer. Chaque fois qu'on fait une césarienne, demander un deuxième avis. Ça permet d'être sûr qu'on fait la césarienne au bon moment, mais aussi avec la bonne indication. Et tout ça, c'est bien publié, d'ailleurs, dans les recommandations là, qui sortent dans le Lancet. Toutes ces données sont proposées, et si on s'appuie là-dessus, on va réussir à stabiliser, comme c'est le cas en France. Je pense qu'on peut être fier d'avoir stabilisé le taux de césarienne, alors qu'en fait, vous voyez, dans tous les autres pays développés, ça monte, ça monte, ça monte. Et ou alors, on peut commencer à faire baisser, comme c'est le cas aux États-Unis, mais alors, ils partaient tellement haut que c'est quand même beaucoup plus facile de faire baisser.
Est-ce qu'il reste des cas ou des femmes ou des couples en consultation qui demandent quoi qu'il arrive une césarienne? Est-ce que ça vous arrive?
Alors, ça nous arrive, en effet, mais c'est relativement rare. Aujourd'hui, les gens, ils savent que la voie basse, c'est la solution naturelle et la nature a programmé les femmes pour qu'elles accouchent par voie basse, par le vagin. Et si la nature avait voulu faire différemment, et ben elle aurait mis le vagin probablement à hauteur du nombril et pas entre les jambes. Donc clairement, il y a cette demande, mais cette demande, elle est relativement rare.
Elle est motivée par quoi en général ? Elle est motivée par quoi en général ?
La crainte, la volonté de programmer, la crainte de faire souffrir le bébé. Mais en même temps, cette souffrance, peut-être qu'on en reparlera après, elle est nécessaire.
Ben oui, puisqu'on a parlé de la mère et des conséquences pour la mère, mais est-ce qu'on a des données, est-ce qu'on sait s'il y a des différences entre une naissance par voie basse et une naissance par césarienne pour le bébé, pour l'enfant ?
Alors oui, il y a des grosses différences. Alors, il faut beaucoup d'enfants pour le démontrer. Sur le coup, ça peut sembler la solution de facilité. Je protège mon bébé, on le fait sortir, il n'y a pas de risque d'avoir un forceps ou une ventouse, il n'y a pas ce passage par la filière génitale. Mais en réalité, ce passage est nécessaire, voire même indispensable pour que le bébé s'adapte à sa vie future. Il va sécréter des hormones du stress, qu'on appelle les catécholamines, et ces catécholamines, elles vont le programmer très rapidement à bien s'adapter à la vie extérieure. Et en particulier au niveau du poumon, on a montré que des enfants qui naissent par césarienne ont plus de problèmes pulmonaires dans les suites, et quand ils naissent par voie basse, il y a moins de problèmes pulmonaires. Et tout ça est lié à ces catécholamines, l'adrénaline, la noradrénaline, toutes les hormones de stress qui vont nous aider. C'est un stress qui est bénéfique. Le stress n'est pas toujours négatif. Et là, en l'occurrence, il est bénéfique et il nous aide à cette transition extraordinaire qui est le passage de la vie in utero à la vie extra-utérine qui nous amènera plus tard à l'âge adulte.
Donc si on a bien compris, lorsqu'elle n'est pas nécessaire, elle ne doit être ni proposée ni acceptée, cette césarienne. C'est le message aujourd'hui.
Ah oui, complètement. Il faut essayer de faire le nombre de césariennes juste indispensable. C'est très difficile, mais il faut vraiment essayer de continuer en France le travail qu'on a mené depuis des années, qui est de ramener le taux de césarienne le plus proche possible de 15%. On est autour de 19-20%. Il faut encore qu'on baisse. Et on sait qu'il y a des hétérogénéités importantes en France. Il y a des centres à 40-50%, d'autres qui sont à 10%. Il faut essayer de ramener tout le monde vers la moyenne, vers la médiane. Et puis, il faut vraiment, vraiment éviter de penser que la césarienne, c'est la solution de facilité. Ça n'est pas le cas. Il y a plein d'idées fausses sur la césarienne.
Merci en tout cas Philippe Derouel pour votre éclairage à l'occasion donc de cette publication autour de l'épidémie, hein, c'est le mot employé de césarienne partout dans le monde.
Dans le Lancet, merci Mathieu.
Merci beaucoup, à demain Axel.
À demain.
Allez, dans le reste de l'actualité scientifique, des groupes d'éponges qui vivaient sur Terre il y a 660 millions d'années. Ce sont les plus vieux animaux connus à l'heure actuelle. Des chercheurs californiens ont mis en évidence la présence abondante d'un composé organique particulier dans des roches fossiles provenant de différents endroits du globe. Ce composé appelé 26-méthylstigmatise n'étant produit que par certains groupes d'éponges. Il est donc conclu que ces animaux vivaient déjà il y a 660 millions d'années dans plusieurs mers de notre planète. C'est donc un nouveau record pour la vie animale. La caméra la plus rapide du monde est capable d'enregistrer 10 milliards de milliards d'images à la seconde, mise au point par des chercheurs américains. L'appareil est exclusivement consacré à l'étude des phénomènes laser et permet de ralentir justement l'étude de phénomènes lumineux microscopiques. Elle va permettre à cette caméra d'étudier à l'échelle microscopique les interactions entre la lumière et la matière. Et puis pour terminer, voici l'histoire des drôles de perroquets kereru de Nouvelle-Zélande. Leur comportement étrangement déluré leur vaut le surnom de pigeons ivres sur la grande île. Friands de fruits très mûrs, voire fermentés, ils sont souvent aperçus dans de drôles de postures. Ils sont les gagnants du concours Birds of the Year dans leur pays. Une vidéo d'un kereru suspendu tête en bas en plein trip dans un arbre fait aujourd'hui le tour des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà vu ces images, Julien Perrault ?
Non, mais il y a aussi des oiseaux chez nous qui parfois souffrent d'ébriété en consommant des fruits trop mûrs.
Ouais, on a mis la vidéo en tout cas sur le Facebook de La Tête au Carré si vous souhaitez voir à votre tour ces pigeons légèrement alcoolisés.